Bonjour à toutes et à tous. Quand on pense investissement immobilier, plaisir et rendement en Europe du Sud, on a tout de suite en tête le soleil, la plage, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, quoi.
Oui, c'est un peu le réflexe classique bien ancré chez beaucoup d'investisseurs français, c'est vrai.
Exactement. Mais voilà, on dirait bien que les cartes sont un peu en train d'être rebattues là, en 2025. On va justement se pencher sur une analyse comparative assez récente de 2024-2025. Elle s'appelle Investir aux Balkans, l'Albanie et le Monténégro en 2025. Et en fait, elle met un peu en balance ces marchés traditionnels avec deux alternatives qui montent, le Monténégro et l'Albanie.
D'accord.
Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi ces pays des Balkans deviennent si attractifs. On va décortiquer un peu les facteurs clés, les rendements, la fiscalité, les prix, voir ce qui les différencie vraiment des destinations habituelles.
Et essayer de voir où sont les vraies opportunités, mais aussi les risques cachés peut-être.
C'est ça, identifier les opportunités et les pièges potentiels. Avec déjà un petit avant-goût, l'étude parle de rendements nets potentiellement bien meilleurs dans les Balkans, surtout en Albanie, et d'une fiscalité, particulièrement douce au Monténégro.
Effectivement, cette étude, elle pose une question assez fondamentale. Est-ce que ce nouvel intérêt pour l'Adriatique Est, c'est juste un feu de paille ou c'est une vraie tendance de fond? Et elle avance des arguments plutôt solides, justement ces rendements nets qui pourraient bien dépasser ceux qu'on connaît dans le sud de l'Europe classique, l'Albanie en tête apparemment.
Oui.
Et puis ce cadre fiscal monténégrin qui a l'air de défier un peu toute concurrence, c'est ce contraste, cette potentielle bascule qu'on va essayer d'explorer ensemble.
Bon, alors allons-y. Commençons peut-être par regarder ce qui se passe sur les marchés plus classiques, justement. L'étude, elle dépeint un tableau où, disons, l'âge d'or semble un peu derrière nous.
C'est un peu ça, oui.
En Espagne, par exemple. Les prix, ils continuent de grimper assez fort. On parle de plus 7,3% en 2024. Le mètre carré moyen, il dépasse les 2200 euros.
Ah oui, quand même.
Oui. Et puis, il y a l'impôt sur les revenus locatifs, 19% pour les non-résidents. Et surtout, ce qui commence à faire grincer des dents, les réglementations de plus en plus strictes sur les locations courte durée, type Airbnb, dans les grandes villes.
Oui, ça change la donne pour la rentabilité.
Ben oui, forcément, la rentabilité nette, elle se fait grignoter petit à petit.
Et l'Italie, elle n'est pas vraiment plus simple si on en croit l'étude. Les prix moyens sont un peu plus bas, c'est vrai, autour de 2100 euros le mètre carré. La croissance est plus modérée aussi, plus 4,4% en 2024.
Mais...
Mais la fiscalité sur les loyers grimpe à 21% pour les revenus fonciers classiques. Et puis, l'étude pointe du doigt une certaine lourdeur administrative, une bureaucratie qui peut décourager un peu, allonger les délais, compliquer la gestion au quotidien.
D'accord. Ce qui fait que les rendements nets, finalement...
Finalement, ils plafonnent. L'étude les situe autour de 4,3%. C'est pas mauvais en soi, mais on va voir que c'est moins que ce qui est annoncé ailleurs.
Et la Grèce alors? On a beaucoup parlé du Golden Visa, mais est-ce que c'est toujours aussi attractif?
Le Golden Visa a eu son succès, c'est sûr. Mais l'accès à la propriété dans les coins vraiment prisés, les îles Cyclades, certaines zones côtières, c'est devenu presque un luxe.
Ah oui, les prix.
L'étude donne une moyenne nationale à 2600 euros le mètre carré, mais attention, c'est une moyenne. À Mykonos ou Santorin, on peut dépasser les 7000 euros le mètre carré sans problème.
Ah oui, d'accord, là ça devient prohibitif.
Exactement. Et ça pèse lourd sur le rendement net final. L'étude l'estime comme le plus bas du panel, seulement 3,2%.
3,2%. Bon, bah là on comprend mieux pourquoi certains investisseurs commencent à regarder ailleurs, effectivement.
Et c'est là justement que le Monténégro et l'Albanie entrent en scène, avec des arguments qui sur le papier ont l'air assez convaincants.
Lesquels, par exemple?
D'abord, il y a un contexte politique qui est, disons, stabilisé par leur statut de candidat officiel à l'Union européenne. Ça donne une direction, une perspective à long terme. C'est un gage de sérieux, si on veut. Ensuite, il y a la dynamique immobilière elle-même. Elle a été assez impressionnante en 2024, plus 11,5% de hausse des prix au Monténégro et même plus 12% en Albanie.
Ah oui, c'est dynamique.
Oui, ça bouge bien. Et surtout, peut-être le point clé, des politiques fiscales qui restent volontairement très très attractives pour les investisseurs étrangers. C'est assumé.
D'accord. Et au-delà de la fiscalité, quels sont leurs atouts plus spécifiques, d'après l'étude?
Alors, pour le Monténégro, c'est très clairement le développement rapide de sa côte adriatique. On voit beaucoup d'infrastructures touristiques de bon standing qui se construisent.
Ok.
Pour l'Albanie, l'atout, c'est peut-être son littoral qui est encore assez préservé. Ça offre un potentiel de développement important. Et puis, il y a sa position stratégique en Méditerranée.
Et pour acheter, c'est simple pour un Européen.
Oui, ça c'est un point important aussi. L'étude souligne la facilité d'achat pour les citoyens de l'UE. Il n'y a pas de conditions restrictives majeures, ce qui rend les démarches plus fluides que dans certains autres pays hors UE.
C'est vrai que c'est important. Bon, arrivons aux chiffres qui font souvent tilt, les rendements nets. Là, l'étude est assez percutante.
Oui, c'est là que ça devient intéressant.
L'Albanie, tenez-vous bien, affiche un rendement net moyen estimé à 5,9%.
Ah oui, 5,9% net, c'est...
C'est quasiment le double de la Grèce, en grille de fin Pracitrie, l'Italie, on l'a dit, 4,3%. Le Monténégro, lui, a une moyenne nationale de 3,9%. Ça peut paraître moins spectaculaire au premier abord.
Oui, mais attention à cette moyenne.
Exactement. L'étude précise bien que sur la côte, dans des zones comme Budva ou Kotor, si on fait de la location saisonnière, on pourrait plutôt viser du 6 à 8% net.
Voilà, c'est très différent.
Et la Grèce ferme la marche à 3,2%. L'écart est quand même considérable.
Oui, il est significatif. Et ce qui est fascinant, c'est de comprendre pourquoi cet écart est si grand. Et là, la fiscalité joue clairement un rôle majeur. C'est le levier principal.
Alors expliquez-nous, le Monténégro par exemple.
Le Monténégro, ils ont fait un choix de simplicité assez radical. Un impôt forfaitaire unique de 9% sur les revenus locatifs. C'est tout.
9%.
9%, point barre. Comparez ça aux 19% en Espagne pour les non-résidents, ou aux 21% en Italie.
Oui, le différentiel est énorme dès le départ, hein.
Exactement. Ça fait une sacrée différence sur ce qui reste dans la poche à la fin de l'année.
Et l'Albanie alors? Avec son rendement qui est le plus élevé du panel, comment elle se situe fiscalement?
Alors, l'Albanie, elle applique un taux de 15% sur les revenus locatifs. C'est un peu plus que le Monténégro, certes, mais ça reste très compétitif par rapport à l'Espagne ou l'Italie. Et surtout, l'étude mentionne qu'il existe des régimes préférentiels, notamment dans les zones de développement touristique sur la côte, qui pourraient potentiellement faire baisser ce taux.
D'accord.
Mais il faut aussi voir la charge globale, hein. L'étude le souligne bien. En Espagne, par exemple, si vous ajoutez certaines taxes locales, parfois les cotisations sociales qui s'appliquent aux non-résidents, eh bien la facture fiscale totale peut vite dépasser les 25% du revenu brut locatif.
Ah oui, là, ça change tout le calcul.
Ça change radicalement le rendement net final, oui.
L'étude soulève aussi un autre point très pratique. Le Monténégro utilise le RO. Ça, pour un investisseur de la zone euro, ça simplifie pas mal les choses, j'imagine. Pas de risque de change.
C'est exact. C'est un avantage de prévisibilité et ça élimine tous les frais de conversion, les complications liées aux fluctuations. Pour l'Albanie, en revanche, on est sur le lek, la monnaie locale.
Donc là, il y a une variable en plus.
Oui, il y a une variable supplémentaire. Le risque de change, bien sûr, mais aussi il faut suivre un peu l'évolution de cette devise, sa stabilité par rapport à l'euro sur le long terme. C'est un facteur de complexité relative, certes, mais à prendre en compte dans sa réflexion.
Et la fiscalité, ça ne se limite pas à l'impôt sur les revenus locatifs. L'étude insiste aussi beaucoup sur les taxes qu'on paye quand on possède le bien et quand on l'achète. La taxe foncière annuelle, par exemple.
Oui. Et là aussi, l'écart est frappant. Elle semble presque dérisoire dans les Balkans comparée à ce qu'on connaît. L'étude parle de 0,3% de la valeur cadastrale au Monténégro et tenez-vous bien, 0,15% seulement en Albanie.
0,15%,
Ah,
c'est...
c'est très très bas. Comparez ça aux 0,8% en moyenne en Espagne ou 0,76% en Italie. L'économie qu'on réalise chaque année sur toute la durée de détention du bien, elle devient vraiment substantielle.
C'est clair. Et au moment de l'achat, les fameux frais de notaire?
Pareil, beaucoup plus doux. Ce qu'on appelle les droits de mutation ou frais d'acquisition. L'étude les estime entre 3 et 5% au Monténégro et même entre 2 et 4% en Albanie.
C'est bien moins que chez nous, par exemple.
Ah oui, c'est nettement moins que les 8 à 10% qui sont courants en France, par exemple. Ça réduit significativement le coût d'entrée, le budget total à prévoir pour l'acquisition.
L'étude mentionne aussi des stratégies d'optimisation fiscale. Est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Est-ce que c'est accessible?
Au Monténégro, c'est présenté comme assez simple, oui. Il est possible, et même assez courant pour des investissements à queue conséquent, de créer une société locale, une DOO, c'est l'équivalent d'une SARL, pour détenir les biens.
Et l'avantage?
L'impôt sur les bénéfices de cette société est de 9%, le même taux que pour les revenus locatifs des particuliers. C'est donc une structure qui est claire, fiscalement cohérente et avantageuse.
Et en Albanie?
En Albanie, l'optimisation, d'après l'étude, elle passe plutôt par les régimes spécifiques qu'on a évoqués, liés aux zones de développement touristique. et aussi par la bonne application des conventions de non-double imposition qui existent avec beaucoup de pays européens, dont la France, pour éviter d'être taxé deux fois sur les mêmes revenus.
D'accord. Mais au-delà des taux, des pourcentages, l'étude insiste sur un avantage peut-être moins facile à chiffrer, mais très concret au quotidien, la fluidité administrative.
Oui, et ça, c'est un point clé pour beaucoup d'investisseurs étrangers. L'analyse estime qu'une transaction immobilière standard, disons sans complications majeures, peut être bouclée en 4 à 6 semaines au Monténégro ou en Albanie.
4 à 6 semaines.
Oui.
Comparer ça aux 3 ou 4 mois, et parfois même plus, qui sont souvent nécessaires en Espagne ou en Italie, entre les compromis, les vérifications, l'acte final.
C'est vrai que ça peut être long.
Ce gain de temps et cette relative simplicité des démarches, c'est un atout majeur pour des gens qui n'ont pas forcément envie de s'embarquer dans des processus administratifs interminables et complexes à distance.
Sans compter qu'on peut y aller facilement pour visiter et prospecter.
Exactement. L'étude rappelle ce détail pratique. Un citoyen français, comme les autres citoyens de l'UE, peut séjourner jusqu'à 90 jours sans visa. Ça facilite grandement la phase de recherche, les visites, les premières démarches sur place.
Bon, venons-en maintenant au prix d'achat. Parce que c'est souvent là que ça coince, ou que ça attire. Et là, l'étude montre un écart vraiment flagrant, surtout avec l'Albanie. Ah oui, là, c'est spectaculaire.
Un prix moyen national de 1 222 € le mètre carré.
1 222 €.
C'est plus de deux fois moins cher que la Grèce et c'est environ 45% moins cher que l'Espagne en moyenne. Pour un budget donné, ça change tout. On peut acheter plus grand ou mieux placé ou peut-être même envisager d'acheter deux biens au lieu d'un. L'effet de levier potentiel est énorme.
C'est clair. Le Monténégro, lui, se situe à un niveau de prix moyen plus élevé. On est autour de 2 421 € par mètre carré. C'est plus proche de l'Italie, en fait.
Mais c'est une moyenne, vous disiez.
Oui, et c'est très important de le souligner. Cette moyenne nationale au Monténégro, elle cache une réalité très contrastée. La banque côtière, qui est très demandée, très développée, elle tire les prix vers le haut. Alors que si on va dans l'arrière-pays, même pas très loin, les prix peuvent être beaucoup plus accessibles, parfois même sous les 1 500 € le mètre carré.
Donc, il y a différentes stratégies possibles selon son budget.
Exactement. On peut viser le premium sur la côte ou chercher des opportunités plus abordables, un peu en retrait, selon ses objectifs de rendement ou de plus-value.
Et ce qui est intéressant, c'est que ces prix qui sont encore modérés, surtout en Albanie, ils s'accompagnent paradoxalement de la plus forte croissance récente de tout le panel qu'on a regardé.
Oui, c'est ça qui est notable.
Plus 12% en Albanie, plus 11,5% au Monténégro en 2024. C'est beaucoup plus que les plus 4,4% en Italie, par exemple. Ça suggère qu'il y a encore un potentiel d'appréciation du capital qui est important, non ?
Tout à fait. Ça suggère que le rattrapage est en cours, mais qu'il n'est pas terminé. Et si on essaye d'affiner un peu la géographie des opportunités, d'après ce que dit l'étude ?
Oui, oui.
Où est-ce qu'il faut regarder ? Jusqu'à Saranda et Ksamil, qui sont juste en face de Corfou. C'est là que le développement touristique est le plus visible, avec des appartements neufs, souvent avec vue mer, qui se négocient entre 2 000 et 3 000 euros le mètre carré.
D'accord. Et Tirana, la capitale ?
Tirana aussi, c'est un marché très actif. C'est soutenu par la croissance économique du pays, le retour d'une partie de la diaspora. Les prix y sont un peu plus élevés, autour de 2 250 € mètre carré en moyenne, mais la demande locative est forte.
Et pour le Monténégro, où est-ce qu'il faut regarder en priorité, selon l'analyse ?
L'étude cible principalement deux zones. D'abord, la baie de Kotor. C'est un site classé par l'UNESCO, absolument magnifique, très prisé pour son charme. Et c'est là qu'on peut espérer les rendements locatifs saisonniers de 6 à 8% dont on parlait. L'autre zone, c'est la région de Budva. C'est un peu le Saint-Tropez ou le Miami des Balkans. C'est plus festif, ça attire beaucoup de monde aussi. Et puis, il y a Podgorica, la capitale.
Moins touristique.
Oui, c'est un marché différent. Plus stable, plus axé sur la location longue durée, les bureaux, les expatriés. Les prix y sont plus contenus. On est aux alentours de 1 600 € le mètre carré. C'est une autre logique d'investissement. Mais au fond, le fil conducteur derrière tous ces chiffres, ces zones, c'est vraiment l'idée de convergence. L'étude, elle parie implicitement, mais assez clairement, que l'adhésion future à l'Union européenne va agir comme un aimant.
C'est-à-dire ?
Ça va tirer progressivement les prix, mais aussi les standards de construction, les normes juridiques, la qualité des infrastructures, vers la moyenne européenne. Donc, investir aujourd'hui, c'est aussi faire le pari de ce rattrapage économique et immobilier.
Mais qui dit marché émergent, dit aussi souvent risque spécifique. L'étude n'est pas naïve là-dessus, j'imagine.
Non, non, elle ne les élude pas du tout. Pour l'Albanie, par exemple, elle pointe une note de stabilité politique qui est jugée à assez moyenne, 5 sur 10. Elle mentionne aussi des défis qui persistent, comme la corruption, même si elle reconnaît que des réformes sont engagées. C'est un facteur d'incertitude à ne pas négliger.
Et pour le Monténégro ?
Le Monténégro s'en sort un peu mieux sur la note de stabilité, 6 sur 10. Le risque principal qui est identifié par l'étude, c'est sa forte dépendance économique au tourisme. Ça le rend potentiellement vulnérable à des chocs externes, comme on l'a vu avec la pandémie par exemple.
Et la taille du marché ?
Oui, c'est l'autre point. La taille relativement petite du marché immobilier monténégrin peut aussi soulever des questions de liquidité, c'est-à-dire la facilité à revendre son bien rapidement et surtout au bon prix. Ça peut être plus compliqué que dans un grand marché, en particulier pour des biens un peu atypiques, très haut de gamme ou situés dans des zones moins centrales.
C'est un peu le revers de la médaille par rapport au marché qu'on disait mature au début, comme l'Espagne ou l'Italie.
Exactement.
Eux, ils offrent peut-être moins de potentiel de plus-value explosive aujourd'hui, c'est vrai. Mais en contrepartie, ils bénéficient d'une plus grande profondeur de marché, d'une liquidité qui est prouvée depuis longtemps et d'institutions plus anciennes, plus ancrées. Le choix dépend vraiment de l'appétit pour le risque de chaque investisseur.
C'est précisément ça. C'est l'arbitrage classique entre risque et rendement potentiel. Mais l'étude met aussi en balance, face à ces risques, des moteurs de croissance qui semblent assez puissants.
Le principal étant l'adhésion à l'UE.
Oui, c'est clairement présenté comme le catalyseur principal. Les deux pays visent cet objectif à l'horizon 2030-2035. Et si on regarde l'histoire récente, l'intégration européenne a quasiment toujours été un puissant accélérateur pour les marchés immobiliers des nouveaux pays adhérents. Ça attire les capitaux étrangers, ça standardise les règles, ça rassure.
Et les investissements dans les infrastructures, vous en parliez, c'est un signe tangible que les choses avancent ?
L'étude cite les grands projets d'autoroute nord-sud qui vont mieux connecter le pays, la modernisation des ports comme Durrës ou Vlora, et surtout le projet de nouvel aéroport international près de Saranda dans le sud. Ça va complètement désenclaver la rivière et booster le tourisme.
Et au Monténégro ?
Au Monténégro, ce sont plutôt les grands développements de resorts de luxe intégrés qui tirent le marché. Des projets comme Porto Monténégro ou Lustica Bay. Ce sont des marinas, des hôtels, des résidences haut de gamme qui créent énormément de valeur, qui attirent une clientèle internationale très fortunée et qui, par effet d'entraînement, tirent l'ensemble du marché vers le haut. Il ne faut pas oublier non plus, même si ça concerne moins directement les investisseurs européens, des programmes de résidence par investissement. Ils existent dans les deux pays.
C'est quoi exactement ?
Ce sont des programmes qui offrent un permis de séjour, voire la citoyenneté à terme, à des investisseurs non européens, en échange d'un investissement immobilier significatif. Ça contribue aussi à l'attractivité générale du pays, et ça soutient la demande sur certains segments du marché.
D'accord.
Et tout ça, finalement, ça pose une question assez stratégique pour l'investisseur. Quel est le bon moment pour rentrer sur ces marchés ? Est-ce que c'est maintenant pour essayer de capter le maximum du potentiel de convergence, quitte à accepter un peu plus d'incertitudes et de risques, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre que les marchés soient plus matures, plus stables, mais avec sans doute des rendements potentiels déjà un peu plus faibles ?
Bonne question. Pour ceux qui seraient tentés par la première option, entrer maintenant, est-ce que l'étude donne des conseils pratiques, des stratégies à suivre ?
Oui, elle distille quelques recommandations assez concrètes. Pour l'Albanie, le conseil, c'est de cibler prioritairement les zones côtières en plein essor, là où les infrastructures arrivent rapidement. Saranda, Ksamil, Vlora. Par contre, elle suggère d'être un peu plus prudent avec les centres historiques très anciens, où les contraintes de rénovation peuvent être lourdes et coûteuses.
D'accord. Et pour le Monténégro ?
Pour le Monténégro, la recommandation est assez claire. Privilégier la côte adriatique, en particulier la baie de Kotor, pour le charme et le rendement saisonnier, et la riviera de Budva, pour le côté plus animé. Et dans ces zones, ciblez les biens qui ont les fondamentaux de la location saisonnière. La vue mer, si possible, la proximité des plages, des commerces, des attractions. C'est assez classique, mais efficace.
L'étude donne aussi un conseil qui vaut pour les deux pays, sur le type de bien à privilégier.
Oui. Elle recommande plutôt de s'orienter vers des constructions récentes, disons datant d'après 2010 environ, ou alors des biens qui nécessitent seulement une rénovation légère, cosmétique.
Pourquoi ?
Parce que les normes de construction, notamment les normes sismiques, qui sont importantes dans la région, se sont vraiment améliorées ces 10-15 dernières années. Acheter du récent, c'est souvent s'éviter des soucis techniques ou des mises aux normes coûteuses. Et puis, sur le plan plus opérationnel, l'étude insiste vraiment, elle martèle l'importance de bien sécuriser l'aspect juridique et de se faire accompagner localement. C'est crucial.
C'est-à-dire, comment on structure l'achat ?
Pour un premier achat ou un investissement d'un montant modéré, l'achat direct en nom propre, c'est souvent le plus simple et le plus rapide. Maintenant, si l'investissement devient plus conséquent, disons au-delà de 200 000 euros, ou s'il concerne plusieurs biens, Là, la structure via une société locale peut devenir pertinente, surtout au Monténégro, comme on l'a vu, pour bénéficier du taux d'impôt sur les sociétés à 9%.
Et l'accompagnement local, vous disiez que c'était indispensable?
Absolument indispensable. L'étude est très claire là-dessous. Et il faut travailler avec un avocat local qui soit spécialisé en droit immobilier et surtout indépendant des vendeurs ou des promoteurs. C'est lui qui va faire toutes les vérifications.
Quelle vérification?
Une vérification très approfondie des titres de propriété en remontant sur au moins 10 ans, voire plus. C'est une nécessité absolue pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème caché, de litige, de succession mal réglée, d'enregistrement cadastral un peu flou. Ça arrive encore dans ces pays.
D'accord. Prendre une assurance titre, c'est utile?
C'est même une précaution recommandée par l'étude, oui. Ça couvre contre les éventuels défauts de titre qui pourraient apparaître après l'achat. Et puis, une fois qu'on est propriétaire, il faut penser à la gestion locative.
Oui.
Là, il faut anticiper. Et se construire un petit réseau de confiance sur place. Trouver un bon gestionnaire, si on veut déléguer complètement, avoir un comptable local qui connaît bien la fiscalité, identifier des artisans fiables pour l'entretien ou les réparations, c'est important.
On peut utiliser les plateformes en ligne?
Oui, bien sûr. Les plateformes type Airbnb, Booking, etc., elles fonctionnent très bien là-bas et sont très efficaces pour la location saisonnière. Mais attention, ça demande quand même une gestion assez réactive, surtout en haute saison. Répondre aux demandes, gérer les arrivées, les départs, le ménage, il faut être organisé ou bien déléguer cette partie. Ah, et un dernier petit détail technique, mentionné dans l'étude, qui pourrait simplifier les choses à l'avenir.
Oui.
L'Albanie et le Monténégro sont actuellement en négociation pour intégrer l'espace SEPA. C'est la zone unique de paiement en euros.
Ah, d'accord.
Si ça aboutit, et c'est probable à terme, ça facilitera énormément tous les transferts bancaires, le paiement des charges, la réception des loyers, toute la gestion financière au quotidien depuis la zone euro. Ce sera plus simple et moins coûteux.
Bon, alors, si on essaye de faire une petite synthèse de tout ce que nous dit cette étude, on a l'impression qu'on assiste clairement à une sorte de remise en question de la géographie traditionnelle de l'investissement immobilier en Europe du Sud, non?
Oui, c'est un peu ça l'idée générale.
Les marchés historiques, Espagne, Italie, Grèce, y montrent des signes de maturité, peut-être même de saturation sur certains segments. Et pendant ce temps-là, on a deux acteurs des Balkans, l'Albanie et le Monténégro, qui émergent avec des arguments vraiment forts.
C'est ça.
L'Albanie, qui frappe par son potentiel de rendement élevé et ses prix d'entrée qui sont encore très bas, et le Monténégro, qui séduit par un régime fiscal hyper simple et attractif, et puis un cadre de vie sur l'Adriatique qui est en plein développement.
C'est vraiment une photographie d'un marché qui est en pleine mutation. Ces deux pays, ils offrent une équation assez intéressante, en fait. Une attractivité financière, qu'on peut voir tout de suite, combinée à un potentiel de croissance à moyen et long terme qui est porté par cette perspective d'adhésion à l'Union européenne.
C'est une proposition alléchante?
Oui, c'est une proposition alléchante, surtout pour des investisseurs qui sont prêts à accepter un niveau de risque peut-être un peu supérieur à celui qu'on trouve sur les marchés établis. Mais, et l'étude le rappelle constamment, ce potentiel, il ne peut vraiment se concrétiser qu'avec une approche très rigoureuse.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire une analyse fine du micro-marché qu'on choisit, que ce soit une ville ou même un quartier, et surtout un solide accompagnement local, juridique et opérationnel. On ne peut pas y aller les yeux fermés.
C'est clair. En tout cas, c'est une dynamique qui est fascinante à observer, ce déplacement d'intérêt.
Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une réflexion qui va un peu au-delà des données brutes de l'étude elle-même. Ce déplacement d'intérêt des investisseurs vers les Balkans, qu'est-ce que ça nous dit, au fond, sur les forces plus larges de convergence économique qui sont à l'œuvre sur le continent européen? Est-ce que c'est juste un phénomène immobilier isolé ou est-ce que c'est un signe précurseur de quelque chose de plus profond?
C'est une bonne question.
Et si c'est un signe précurseur, alors quelles pourraient être les prochaines régions émergentes? Peut-être plus à l'est encore, ou sur d'autres rives de la Méditerranée? Quelles régions pourraient suivre une trajectoire un peu similaire dans les 10 ou 15 prochaines années? Voilà, c'est une question qui ouvre un peu sur l'avenir même de l'intégration et du développement économique en Europe.